Bienvenue à Escale 16-17 avec Fulgence Blanc au micro. Oui, c'est la dernière de la semaine, c'est vendredi, démarrer l'émission. Après mon blablabla, après avoir mis le décor, planté le décor de l'émission, je vais recevoir Dominique Prinet, qui est auteur et pilote de brousse, qui va nous parler de son tout nouveau livre, Pilote du bout du monde. Il a parcouru le Grand Nord, souvenir d'un pilote de brousse dans le Grand Nord. Voilà, ça c'est quelque chose. Hier, on avait reçu le pilote de ligne Mario Faubert qui nous a parlé de le Québec vu d'en haut, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un autre pilote, mais cette fois-ci, c'est pas un pilote de ligne, mais c'est un pilote de brousse qui va nous parler de ses séjours dans le Grand Nord. Un témoignage stupéfiant, ciel et terre. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Hein, voilà, ça, c'est, il faut le dire. Et puis, à 16h15, je vais recevoir Emmanuel Nguyen. Voilà, consultant, analyste d'affaires pour parler de son parcours d'immigrant. Et puis, bon, ben, il fait quoi encore de l'escalade? On va terminer notre conversation comme ça avec l'escalade. Mais d'abord, dans un premier temps, je vais parler de son parcours d'immigrant avec lui. Et tout de suite, sans perdre trop de temps, il est déjà en ligne, l'invité. Voilà, je pense bien qu'il est prêt pour nous parler de... Moi, est-ce que c'est une folie de sa part? Je ne sais pas. Bon, ben, est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce que c'est un amour du Nord qui l'a attiré pour faire tout ce travail? Dominique Prinet, bonjour à vous, Dominique.
Bonjour, monsieur.
Je vous en prie. Alors, pilote du bout du monde, souvenir d'un pilote de brousse dans le Grand Nord.
Hein? Voilà, c'est ça. Je volais dans les années 60, mais beaucoup plus bas que les autres pilotes que vous interviewez. Je volais au ras du sol,
voilà.
des avions de brousse, et parfois beaucoup trop bas, avec des avions en surcharge par très mauvais temps.
Oui.
Et c'était un boulot qui était absolument passionnant.
Passionnant, voilà. On va aller dans les détails un peu plus tard. Au cours des années 60-70, le Grand Nord canadien était en pleine effervescence. Dominique Prinet, alors jeune pilote de brousse, y a effectué des vols incroyables. Lui qui a transporté pas tous les temps, des pêcheurs, des chasseurs, des trappeurs, des chercheurs d'or ou de pétrole, ainsi que des blessés, des malades nécessitant une évacuation d'urgence. C'était bien avant le GPS. Waouh ! Quand les cartes se révélaient imprécises, les modes de communication rudimentaires, et que les voyages du genre duraient des semaines, nuit et jour, été comme hiver, au moyen d'avions, à flotteurs ou à ski. Alors,
et oui.
Expliquez-nous un peu.
Eh bien, écoutez, c'est exactement ça, vous l'avez très bien dit. Le Nord était en pleine expansion à cause des découvertes minières.
Oui.
On cherchait partout de l'or, de l'argent, et plus tard, on s'est mis à chercher des diamants.
Oui.
Et il y avait en plus des vols de récupération de gens qui étaient soit blessés, soit... comme vous l'avez dit, en train d'accoucher avec grande difficulté.
Oui.
Et ces gens étaient toujours malades et avaient besoin de soins en hiver par temps de blizzard.
Oui.
Je leur disais à ces dames qui voulaient accoucher, mais attendez le mois de juin, au moins qu'il fasse beau, ça sera plus facile. Ben non, c'était toujours en janvier ou en février.
Mais c'est ce qui fait que j'ai parlé de folie au début. J'ai dit, mais quelle folie il avait à ce jeune homme.
Ben, il faut être jeune et inconscient pour faire ce
c'est
métier-là.
Vrai, c'est vrai, c'est vrai.
C'est très difficile parce qu'on part pendant des jours. Il faut emporter des bidons d'essence pour faire les pleins. Il faut emporter une caisse à outils pour réparer l'avion et le moteur, et c'est difficile de naviguer, surtout pendant l'hiver, parce que tout le terrain est plat dans la toundra et couvert de neige, donc on ne sait pas où on est.
Mm-hmm.
Le compas magnétique ne marche pas, évidemment, trop près du pôle, hein, on ne sait même pas dans quelle direction on va.
Oui.
Ça rend le métier intéressant.
Intéressant. Et nuit et jour, été comme hiver, au moyen d'avion, flotteur ou à ski, ce pilote, mais c'est pas possible. Je me suis dit, mais au fil de votre témoignage, merci d'abord, j'adore ce livre. Je l'adore.
Bon.
Je l'aime beaucoup. Oui, non, c'est vrai. Merci d'avoir pris le crayon, avoir mis ça, tout ce que vous avez vécu sur papier, et puis la collaboration avec la maison d'édition.
Oui.
Les éditions JCL. qui vous ont permis de nous faire découvrir toute votre expérience de...
C'est ça, c'est une édition québécoise.
Oh, oui, oui.
Basée près de Montréal.
Oui. Et puis, quand j'ai lu que vous avez eu votre permis de pilotage, votre brevet de pilotage avant le permis de conduire, je me suis dit,
ah,
mais
oui.
Est-ce que c'est standard pour
eh
tous
ben,
les pilotes
oui. Eh ben, j'ai fait du planeur et j'avais brevet de planeur à 15 ans, ce qui est le minimum légal.
Oui.
Et dès que j'ai eu 17 ans, j'ai pu avoir mon brevet de pilote d'avion. Mais pour conduire des voitures, il fallait en avoir 18.
Oui.
Donc j'avais un brevet de pilote d'avion à 17 ans,
ah, oui.
Mais absolument pas le droit de conduire des voitures au sol. Mais ça se comprend parce que le pilotage des avions est finalement beaucoup plus facile.
Oui.
En tout cas par beau temps, quand tout marche bien.
Oui. Et puis l'obtention de ce permis-là vous a permis de participer à un échange de cadets de l'air pour un circuit VIP aux États-Unis où vous avez rencontré le président Eisenhower à la Maison-Blanche.
Oui, alors ça c'est extraordinaire.
Quel beau souvenir. Parlez-nous un peu de comment vous êtes senti devant ce grand monsieur.
Oh, mais écoutez, c'était très émouvant. J'avais 17 ans, j'étais invité comme VIP aux États-Unis par les cadets de l'air. Et alors j'ai été reçu en grande pompe à New York. On a passé 8 jours à l'hôtel Waldorf Astoria.
Wow.
En Floride, en Louisiane, pardon. On a passé 15 jours ou 3 semaines avec des tapis rouges, des cérémonies d'accueil.
Des
fanfares.
Wow.
Oui, on se voyait tous les soirs à la télévision et en première page des journaux le lendemain. Et ça a terminé à Washington, où on a été invité à la Maison-Blanche pour dire bonjour au président Eisenhower et discuter avec lui de l'avenir de l'humanité.
Wow.
Alors,
à 17 ans.
Pour un garçon de 17 ans, c'est très impressionnant.
Ouais, c'est
et j'en garde de très bons souvenirs.
Oui. Quand est-ce que l'idée vous est venue de prendre votre crayon et de mettre tout ce que vous avez vécu sur papier?
Écoutez, c'est au début, pendant tout le temps où je volais, j'étais tellement fasciné par ce travail. Je trouvais le pays tellement beau, les gens tellement extraordinaires venant de tous les coins du monde.
Oui.
Je trouvais les autochtones tellement admirables, remarquables,
oui.
Que je vivais dans un enthousiasme délirant et j'avais besoin de partager ça avec le reste du monde. Alors, quand je volais ou quand je pouvais, j'écrivais mes histoires, je prenais des tas de notes après les vols, j'écrivais les histoires quand je pouvais, et je les ai publiées pendant 5 ans en France, dans une revue d'aviation. Alors j'avais des centaines de fans qui m'ont écrit au cours des années, parce qu'ils voulaient venir voler au Canada, mais j'aurais dit, mais attention, c'est dur, et puis on n'a pas les lois sociales qu'il y a en France, alors faites attention.
Oui.
Mais j'étais tellement heureux, tellement enthousiaste que j'avais besoin de partager ça avec tout le monde. Alors donc j'ai publié toutes ces histoires. Puis ensuite, quand j'ai pris ma retraite, j'ai eu le temps de les regrouper sous forme de livres.
Alors, je me suis dit, comment la famille réagit? Vous n'êtes pas venu avec votre famille, vous êtes venu tout seul ou bien vous êtes venu avec la famille?
Je suis venu tout seul, oui. Parce que j'étais très malheureux en France, ça n'allait plus du tout. Je venais d'une famille très très stricte, très très traditionnelle, et très embêtante. Et
une famille aisée.
Très très, pas tellement aisée, mais très exigeante intellectuellement,
oui.
Très critique. Alors j'ai fui la France. Et je suis venu directement au Canada et j'ai été stupéfait par ce pays, par l'accueil que j'ai reçu, l'aide que j'ai obtenue des Canadiens, y compris des gens du gouvernement qui m'ont aidé à obtenir mes brevets canadiens. J'ai trouvé que tout était tellement positif, les gens étaient tellement ouverts et accueillants.
Mmh.
Que je me suis dit, c'est là que c'est ça mon pays.
C'est ça votre paradis, quoi, disons, entre guillemets.
Ouais. Pour moi, c'était le paradis. Ça
oui.
M'a complètement retourné et remis sur pied.
Mm-hmm.
Et ça m'a tiré d'affaire. Et depuis, je suis un fanatique canadien à 150%.
À 150%.
Absolument.
Dominique Mer. Alors, les rencontres avec les prospecteurs, les mineurs, les aventuriers, et puis les voleurs de lingots. Moi, ça m'a fait sourire, ça, cette partie-là, qui fréquentait le bar le plus populaire de Yellowknife. Vous n'avez pas eu peur de fréquenter les voleurs de lingots?
Eh bien, dans les...
De lingots d'or, il faut que je précise.
Des lingots d'or, oui. Il y a eu ce qu'on appelle un casse, c'est-à-dire un raid pour voler les lingots d'or. Il y en a eu un autre, d'ailleurs, à Winnipeg, avec des lingots d'or qui arrivaient d'une mine du Nord et qui a été, ça a été détourné par une équipe qui attendait les lingots à l'aéroport. Alors il y a un type de la mine qui est parti avec des lingots d'or. On a mis du temps à la retrouver, mais on l'a retrouvé quand même. Et puis, comme vous disiez, il y a des bars extraordinaires. En fait, il y avait un bar où tout le monde se retrouvait le soir, notamment les prospecteurs, les mineurs, les pilotes de brousse. Et ça se terminait de temps en temps par une bagarre, à tel point que...
Comme dans le Far West.
Exactement comme dans les Far West. Mais il y avait un règlement qui disait qu'on n'avait pas le droit de se tenir debout quand on jetait des trucs à la figure des autres. Et si on leur envoie une bouteille de bière, on peut faire ça, mais depuis sa chaise. On n'a pas le droit de se tenir debout pour le lancer à travers la salle. Alors ça restreignait un peu les dommages. Mais au bout d'un certain temps, il y avait souvent des tontons macoutes qui débarquaient et qui mettaient tout le monde dehors. Alors les gens étaient en bras de chemise par moins 40. Oui. Et au bout de 10 minutes, ils étaient vite rafraîchis. Et donc ils revenaient et les discussions reprenaient dans le calme. C'est comme ça que ça s'arrangeait.
Cette expérience que vous avez vécue durant des années, si c'était à refaire?
Oh ben c'est absolument fascinant, et si c'était à refaire, je recommencerais avec enthousiasme.
Wow. Il y a une partie qui m'a beaucoup impressionné, c'est au chapitre, le décollage choc. Yellowknife, octobre 1968, 1680 à Ski. Parlez-nous un peu de ça. Avec le temps escrictable, comme toujours à cette époque de l'année, avec plafond bas et quelques averses de neige, nous volons avec des avions à ski depuis 2 semaines parce que les petits lacs sont déjà gelés. Ce jour-là, j'apporte en 1680 des vivres aux hommes qui travaillent à la mine Terra. Vous vous rappelez de tout ça?
Oui, c'était près du Grand Lac de l'Ours, c'était un vol de 2h30, je crois, ou 3h. Alors on arrive, on se pose à Lille, devant la mine, sur un lac qui était à moitié gelé. Donc on se pose sur la moitié qui était gelée, l'autre au moitié était ouverte. Je débarque mes affaires, je reprends du carburant avec les bidons que j'avais amenés avec moi.
Oui.
Et au décollage, il y a un ski, juste au moment où on décollait, soit sur la partie qui était glacée, mais face à la partie ouverte, le ski de gauche bascule et se met à 90 degrés de l'avion verticalement. Donc ça faisait un frein aérodynamique gigantesque, c'était une surface de près d'un mètre carré. Et alors du coup, l'avion n'arrivait pas à prendre de vitesse, on était au-dessus de l'eau, alors je me demandais s'il fallait couper le moteur et se poser sur l'eau et continuer en faisant une glissade dans les rochers et dans les arbres,
oui.
Ou bien si on allait continuer et essayer de passer au-dessus des arbres. Alors c'est ce qu'on a fait, on a continué, on est passé au-dessus des arbres, on a certainement découpé des cimes d'arbres au passage parce qu'on était juste dans les sommets. Mon passager à droite qui était un factotum qui m'aidait avec les chargements et déchargements des choses, a croisé ses bras devant sa figure pour se protéger quand on arrivait dans les arbres et s'est mis à hurler. Mais ça a passé quand même, on a continué à monter le long de la pente, on a disparu dans les nuages et on est rentré à Yellowknife de nuit et dans les nuages. Ça s'est dégagé quand on est arrivé près de Yellowknife et quand on s'est posé et on s'est arrêté. Comme j'avais un ski vertical, les pompiers sont venus nous chercher, nous attendre sur la piste. Je me suis posé sur la neige au cas où on se casse la figure, ça serait moins dur. Et alors j'arrête le moteur, je vais serrer la main des pompiers, les remercie de m'avoir attendu, tout s'est bien passé. Et ben, impossible de faire repartir le moteur. On a tellement mis de temps au retour parce qu'on avançait tellement lentement avec ce frein qu'il n'y avait plus une goutte d'essence quand on est arrivé.
Wow.
Alors j'arrête le moteur de moi-même, il ne s'est pas arrêté tout seul, impossible de le faire repartir. On a dû pousser l'avion jusqu'au parking à la main.
Comme une voiture.
C'était vraiment juste parce que c'était la nuit ça aurait pu s'attendre s'éteindre 5 minutes plus tôt là. Enfin.
Wow, quelle belle expérience. Voilà. Ah bon, on a une dernière minute rapidement là. En une minute, quelle a été l'expérience la plus captivante que vous avez vécue?
La plus extraordinaire, c'est quand on est tombé du ciel dans un otter. Un gros avion monomoteur on volait le long de la côte arctique pendant 4 ou 5 heures avec une dizaine de passagers.
Oui.
Le long de la côte pour retrouver le grand lac de l'Ours, et on a attrapé du givre et on est descendu jusqu'au tapis parce que l'avion ne volait plus, il était couvert de givre et de glace, donc on est descendu dans les nuages jusqu'au sol, et on a heurté la toundra en régime de croisière, dans le brouillard complet, mais on était sur flotteur, et on est tombé dans un lac par hasard. Quand on a heurté, c'était de l'eau. Donc on a survécu comme ça, c'est un atterrissage à grande vitesse sur l'eau dans le brouillard, et quand j'ai cherché un endroit où garer mon avion dans ce lac, on est tombé sur une petite plage avec deux tentes. Imaginez, dans un rayon de 1000 km, ouais, où il n'y a absolument personne, il n'y a même pas d'autochtones.
Non, il n'y a même pas d'êtres humains partout.
On tombe sur un endroit où il y a deux tentes, et les passagers, ils ont passé 10 heures dans l'une des tentes qui servait de cuisine. C'était deux géologues qui étaient là et un cuisinier. Les passagers ont passé 10 heures à boire du café et manger des biscuits et de se faire des sandwichs. Et je leur ai dit qu'on faisait escale parce qu'il faisait mauvais, donc on attendait que et les passagers trouvaient ça tout à fait normal. C'était une escale, ben évidemment, on s'arrête quand le temps est trop mauvais, s'arrête
en cours de route. C'est ça.
C'est complètement stupéfiant comme manœuvre.
Comme manœuvre.
Et le temps s'est dégagé et on a pu continuer jusqu'au Grand Lac de l'Ours le lendemain.
Merci beaucoup, Dominique Privé, pilote du bout du monde, souvenir d'un pilote de brousse dans le Grand Nord. C'est déjà en librairie, les éditions JL. Je vous souhaite une très belle retraite.
Merci, monsieur.
Au plaisir de vous réentendre.
Ok. Voilà.
Voilà, vous avez entendu ce livre, et ce livre dont je viens de parler avec l'auteur, un témoignage stupéfiant entre ciel et terre, aux éditions JCL, tout un monde à lire, hein, pilote du bout du monde. Voilà, c'est ça, c'est un souvenir d'un pilote de brousse dans le Grand Nord. Ouais, Dominique Prinet, il a la retraite, je lui souhaitais très belle retraite. Alors mon deuxième invité avec moi, déjà en studio, Emmanuel Nguyen, moi je l'appelle Manu. On va parler de son parcours d'immigrant. Oui, d'abord, comment, qu'est-ce qu'il a tiré rapidement en France pour les quelques minutes qui nous restent avant d'arriver à la fin de la première partie de l'émission. Et pour terminer, on va parler de... Il fait de l'escalade. Je voulais l'inviter spécialement pour ça. Et puis bon, en fait, d'une pierre deux coups, le parcours d'immigrant rapidement. Comment l'idée est venue? Comment Emmanuel s'est retrouvé ici à Montréal? Il est résident permanent, il a déjà fait même son examen pour la citoyenneté. Un résumé de tout ça rapidement.
Bonjour Fulgence.
Ah bonjour à toi.
Un résumé très bref.
Oui, très bref, voilà.
Qu'est-ce qui m'a amené au Canada?
Oui.
La blague que je dis toujours, c'est mon ex-copine.
Ouais. C'était une question d'amour.
C'était une question d'amour, effectivement. Oui. Sans doute d'autres éléments que mon rationnel a sans doute bien caché en arrière.
Oui.
C'est ça. Ma conjointe d'alors a postulé à l'UQAM en design graphique. Le Québec est un très précurseur dans ce domaine. Et moi, j'ai vu ça comme une occasion unique de pouvoir découvrir une nouvelle culture, quitter ma région, puisque dans ma région, j'y suis resté depuis que j'y suis né. Je n'ai pas fait
L'Alsace.
d'études à l'étranger, l'Alsace
Oui.
exactement. Et j'ai saisi cette opportunité. Je suis venu, je suis resté. Nos chemins se sont séparés, elle et moi, mais la
C'est
preuve,
le cours de la vie.
c'est le cours de la vie, ça arrive. Mais j'ai fait des très belles rencontres, j'ai découvert une très belle culture, le Québec, le Canada, un beau pays aussi.
Comme vient de le décrire d'ailleurs l'invité avant toi.
Comme vient de le décrire l'invité avant moi, effectivement. C'est 8 ans maintenant,
Oui.
je suis arrivé en 2014.
Les années passent vite.
Les années passent vite, effectivement. J'essaie de tout me rappeler, c'est long et court en même temps. 8 ans sont passés.
Avec les histoires de PVT et autres jusqu'à la résidence permanente, c'est pas évident. C'est
Exactement,
tout
c'est ça.
un parcours de combattant, quoi.
C'est un parcours vraiment qui est stressant. Effectivement, quand je suis arrivé au début sans visa. J'étais touriste, je suivais l'amour en tant que tel, qu'importe les conditions que c'était.
Oui.
Et à un moment, j'ai découvert qu'il existait un permis vacances-travail que les Français peuvent avoir facilement, entre guillemets.
PVT.
Un PVT, c'est l'acronyme, le bel acronyme,
C'est ça.
qui permet de rester 24 mois au Canada et de pouvoir travailler et voyager. Au moment où moi j'ai postulé, ce n'est plus le même système qu'il y a actuellement, mais c'était la course au premier qui arrivait à soumettre son dossier en ligne. Un stress
Il y a
incommensurable.
eu tout un changement depuis des dizaines d'années. Oh, ouais, c'était pas. Je me rappelle bien à l'époque, en 2003, quand j'étais venu en vacances ici, et puis je suis reparti en Europe, et puis j'ai fait pas de mal. Moi, ça m'a pris en gros en tout 3 mois, et puis j'étais déjà résident permanent. C'était pas compliqué. Oh, ouais, c'était pas compliqué à cette époque-là, d'ailleurs. Mais il fallait réunir tous les documents demandés, quoi. Je ne voulais pas déposer mes dossiers, et puis après, on m'écrit, ah, il y a un document qui manque. Non, 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 j'ai tout déposé, c'était complet. Tiens, non, non, on m'a appelé, tiens, CSQ. Qu'on l'appelle le certificat de sélection du Québec, ensuite
Exact.
directement le reste. C'est parti rapidement, quoi.
Alors
J'étais sorti.
qu'aujourd'hui,
Ah non, non, c'est compliqué.
c'est devenu un parcours du combattant. Il faut avoir de l'endurance, réellement. C'est un stress, puisque le permis vacances-travail est un permis ouvert qui nous permet de travailler avec n'importe quelle entreprise, d'en quitter une, d'en commencer avec une nouvelle. Mais quand on commence les autres démarches que sont le certificat de sélection du Québec, la résidence permanente, à ce moment-là, on a un visa fermé qui nous contraint à rester avec un employeur.
On ne dépend que de cet
Et on
employeur.
ne dépend que de cet employeur. Il est possible
Oui, vas-y, vas-y, vas-y.
de pouvoir changer d'employeur, mais
Oui.
encore là, faut-il que le nouvel employeur soit
Accepte
d'accord,
de se porter garant.
exact, et
Oui.
d'effectuer les démarches qui ont un certain coût de son côté. Et donc, on est un peu comme enchaîné, surtout si le métier qu'on a choisi finalement ne nous correspond plus.
Ouais, c'est pas évident. C'est pas conseil. Ceux qui nous écoutent, qui sont en pleine préparation, écoutez bien. Alors, je pense bien que ça s'est bien passé. Maintenant, tu es résident permanent, tu es en procédure de comment dirais-je, de citoyenneté.
Exact.
Wow.
J'attends ma cérémonie.
Je te le souhaite. Je te le souhaite. Je suis très content pour toi. Quand j'ai reçu les documents que tu m'as envoyés, je me suis dit, waouh, il le mérite. Ouais, ça va se passer très bien. Alors, comment tu es arrivé rapidement, pour terminer, comment tu es arrivé à l'escalade, ce petit cadeau d'anniversaire, ou bien je ne sais quoi?
Exact. C'est un cadeau d'anniversaire. C'était l'idée de ma copine, qui est toujours ma conjointe. Ça fait 6 ans.
Oui.
Je me plaignais que je n'arrivais pas à voir certaines personnes et elle s'est dit, je vais les booker en avance,
Oui.
puis je vais leur dire, faites une activité avec lui, n'importe laquelle. Et un de mes amis a décidé de m'amener au centre d'escalade qui était à 5 minutes à pied de chez moi.
Oui.
Et quand j'en ai fait avec lui, c'était une révélation, j'ai adoré ça.
Ça, on n'avait pas fait auparavant.
J'en avais fait un peu à l'école, mais j'avais oublié depuis ce que c'était, puis bon, jeunesse faisant, on a fait
Oui,
différentes
c'est
choses.
ça, c'est ça.
Et quelle fut pas ma surprise quand la deuxième personne que je rencontre pour une activité me dit, mais moi aussi je fais de l'escalade et je cherche un partenaire. Et je me suis dit, mais c'est l'occasion rêvée pour qu'on se voit, qu'on socialise ensemble.
C'est ça.
Et depuis, je n'ai plus quitté l'escalade.
Tu n'as plus quitté le. Tu vas combien de fois par semaine ou bien par mois?
En moyenne, je vais deux fois par semaine à
Deux
l'escalade.
fois par semaine.
Je pourrais aller jusqu'à trois, ça dépend. J'essaie d'y aller de manière cool,
Oui,
modérée.
c'est comme quelqu'un qui va faire son petit sprint deux fois par semaine, quoi. Oh Alors, qu'est-ce que tu conseillerais? Un petit conseil, d'abord deux fois. Quel conseil tu donneras à ceux qui sont en pleine préparation de réfléchir comment ils veulent se rendre au Canada en tant que résident permanent? Rapidement, en quelques mots. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui aimeraient se lancer aussi dans l'escalade?
Pour ceux qui souhaiteraient immigrer au Canada, je leur
Oui,
dirais
oui.
de venir sans attente.
Oui.
Le parcours d'immigration n'est jamais un parcours facile et chacun aura son propre parcours.
Oui.
Puis si vous voulez vous intégrer dans une culture, il y a quelques livres que je conseille. Ce serait Code Québec, qui
Oui.
est un très bon livre pour expliquer la culture québécoise et qu'est-ce qui font qu'ils sont
Oui,
différents du
oui.
reste des Canadiens. Et éventuellement Le Dictionnaire des amoureux du Québec par Denise Bombardier. Deux livres qui vous aideront à passer et à comprendre tout le périple d'un immigrant dans un autre
Génial. Et
pays.
puis il y a un site immigré.com.
Et immigré.com.
Ah ouais, je connais ce site-là aussi. Il y a tellement de débats là-bas, de mentionner. Bon, et ceux qui veulent se lancer dans, ceux qui sont déjà là, qui veulent se lancer dans l'escalade, qu'est-ce que tu leur conseilles?
Et pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'escalade, je leur dirais, allez-y. C'est vraiment une communauté de gens ouverts. Moi, pour le dire, en termes de santé mentale,
Faire
c'est
du
quelque
plaisir.
chose
Donc, tu conseilles aux gens d'aller avoir du plaisir aussi.
où ça donne du plaisir et de toujours viser le plaisir. C'est un sport où vraiment, que vous soyez un homme, une femme, non binaire,
Oui.
tout le monde est accepté, tout le monde est encouragé.
Oui.
Il y a toutes les formes qui existent de personnes. Et beaucoup pourraient vous surprendre que si vous les regardiez dans la rue, vous ne vous dites pas qu'elles sont avec une force si athlétique que ça. Parce que l'escalade, ce n'est pas des gros muscles, ce n'est pas
Non, non,
une
non, non.
allure,
C'est une question de technique.
c'est une question de technique et une
Oui,
question
oui.
de mental
Moi, j'en
aussi.
ai jamais fait, mais je vois des vidéos, je regarde, je dis, oh non. J'ai jamais essayé, j'ai peur de la hauteur de toutes les façons, voilà. Alors, j'ai peur de la hauteur.
Et même ceux qui ont peur de la hauteur pourraient réussir, sans
Oui,
aucun
bon, alors
problème.
moi, on me donne une corde qui me tient, là, si je chute.
Exactement.
Voilà, si je chute pour que Mathieu ne me regarde pas comme ça. Si je chute, bon, tu ne seras pas là pour te moquer de moi. Merci beaucoup à toi, Emmanuel. Et analyse consultant d'affaires. Et ouais, consultant analyse d'affaires.
Exact.
Et bonne continuation. Et puis j'espère que tu auras bientôt ta citoyenneté. De toutes les façons, ce n'est pas ça qui t'empêche pas de voyager. Ou bien quoi, tu peux voyager à ton passeport français tout le temps. Mais tu vas avoir la double citoyenneté. Bonne escalade. Entraîne-toi bien
Merci
pour
beaucoup.
l'hiver qui arrive. Et au plaisir de te réentendre ici aussi avec d'autres sujets que tu pourras partager avec nous. Là, je vais te garder un peu plus longtemps pour une première. Merci beaucoup à toi et bonne fin de semaine.
Avec plaisir, Fulgence.
Merci,
Bonne fin de
Manu.
semaine.
Merci. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, il y a Christian Lacasse qui est déjà là pour nous parler de comic book. Ouais.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie, dernière partie de la semaine, bien sûr. C'est vendredi. Demain, on n'est pas là. Dimanche non plus, on revient lundi. Je ne sais pas, même si à Lovine. Ouais.
On n'est pas là demain? Moi, je serais prêt à revenir.
Oui, je m'attendais à toute la semaine, tant qu'à faire la semaine. Pourquoi qu'on ne revient pas demain?
Ben oui.
Oh, Mathieu, arrête de me
Toute la nuit, all night long.
Voilà. Alors, c'est la deuxième partie de l'émission, bien sûr, on va terminer. Voilà, on ne va pas terminer, mais on va passer le prochain quart d'heure avec Christian Lacasse qui va nous parler de Dracula et la présence des vampires dans le comic book.
Exactement.
Là,
Juste à temps pour l'Halloween.
Il m'a envoyé, et voilà, il m'a envoyé de ces photos-là encore.
Ah oui, mais j'ai des aides visuelles pour Fulgence pour lui donner un peu plus de détails.
Voilà.
Et comme je l'ai dit toujours, hein, si vous voulez plus de détails, vous pouvez toujours faire une recherche sur Internet. C'est très facile.
C'est très facile
de
trouver ces
trouver.
Photos.
Exactement, exactement.
Bonjour, Christian.
Bonjour.
Alors, on y
Alors,
va?
Parlons Halloween, parlons
Dracula.
De vampires.
De vampires. Paya.
Alors, les vampires dans la culture populaire, ça commence dans les années 30, surtout aux États-Unis.
Oui.
L'image du vampire dans la culture populaire américaine est cimentée par le film Dracula en
Oui.
1931, qui met en vedette Bela Lugosi. Le look du vampire, ses pouvoirs, ses motivations, ses faiblesses, tout découle de ce film. Et donc, la bande dessinée, quand vient le temps de présenter des vampires, s'inspire complètement de cette vision.
Oui.
À noter que le personnage de Dracula est encore la propriété de son auteur, Bram Stoker. Donc, la bande dessinée va présenter des vampires comme Dracula, oui, sans les nommer Dracula. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment la propriété de... Et aussi les studios Universal qui ont les droits pour les films de Dracula dans les années 30.
Oui.
Bon, pour vous situer, qu'est-ce que c'est un vampire? L'image qu'on a du vampire, ben, c'est un aristocrate qui vit en Transylvanie. Il est charmant, il se nourrit du sang de ses victimes vivantes. Il se transforme en chauve-souris. Il supporte pas la lumière du soleil. Il dort dans un cercueil. Il peut être tué.
Faut pas te transformer en chauve-souris en face de
moi. Non, moi, je me transforme en citrouille, moi.
Ah!
Il peut être tué en lui plantant un objet au cœur.
Il se transforme en citrouille, lui.
Absolument. Et c'est important de le souligner, le vampire est toujours un ennemi à cette époque-là, jamais un allié.
Mm.
Le premier vampire à apparaître dans un comic book, c'est en 1935, dans New Fun numéro 7,
oui,
dans une aventure du personnage Dr. Occult, ou Occulte. Le Dr. Occulte a été créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, les futurs créateurs de Superman. On dirait qu'à chaque semaine, je vous présente d'autres personnages qui ont été créés par ces deux-là.
Mm-hmm.
Et dans ses premières apparitions, Dr. Occulte porte un costume bleu avec une cape rouge. Tiens, future inspiration pour plus tard. Je vous rappelle, c'est en 1935 et Superman a été créé en 1938. Le Dr. Occult, il est surnommé le Ghost Detective parce qu'il aime enquêter sur des phénomènes paranormaux. Et donc, dans le numéro 7 de New Fun, il s'en prend à une créature appelée le Vampire Master.
Le Vampire Master.
Le maître vampire.
Wow.
Un vampire qui a toutes les caractéristiques classiques du vampire, comme je les nommais plus tôt. D'ailleurs, lorsque vous feuilletez la publication, le personnage ressemble étrangement à Bela Lugosi, sans jamais l'appeler, bien sûr, Dracula. Il a une cape. Il a la même apparence. C'est pas compliqué. C'est vraiment le même personnage, mais on ne l'appelle pas.
Je vois
ainsi.
Ça. Je t'en mets en face de moi, là.
Par la suite, en 1939, dans Detective Comics numéro 31 et numéro 32, Batman affronte le The Monk.
Je vois ses oreilles, là.
Ouais, les oreilles de Batman au tout début de la publication sont trop pointues.
Oui, c'est ce que je vois ici.
C'est un petit peu trop exagéré. Mais bon, on voulait le faire ressembler à une chauve-souris, quand même.
Bon, pour 10 cents, bon...
Mais oublie pas, Fulgence, à l'époque, 10 cents, c'est énorme.
C'était beaucoup d'argent.
Voilà. Donc, The Monk, un vampire de Transylvanie qui désire créer une armée de femmes loups-garous.
Oui.
The Monk porte une grande toge et une cagoule rouge, mais sous son déguisement, là encore, il ressemble au prototype type du vampire pour la période. À la fin de l'histoire, Batman parvient à tuer The Monk pendant qu'il dort dans son cercueil,
oui,
à l'aide d'un pistolet avec des balles d'argent. Ce qui est très rare pour Batman, qui n'utilise jamais de pistolet habituellement. Et donc, à l'époque, il en a déjà utilisé. Voilà. Il y a des gens qui disent que Batman ne devrait jamais utiliser le pistolet, mais il l'a déjà fait.
Attends, oui, je vois.
Oui, j'ai apporté la dernière page, justement. On le voit, là. Batman qui tire à bout portant.
J'étais surpris quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec ce revolver-là?
Absolument. Il tire à bout portant le personnage de The Monk, dans son cercueil, en plus.
Oui.
Donc, il n'y a pas de pitié, Batman, à cette époque-là. Au début des années 40, les vampires sont présents très rarement dans les comic books. Faut dire que les méchants habituels de la période sont souvent des soldats ou des sympathisants nazis. Mais les vampires font quelques apparitions. Parfois, ils adoptent un look plus traditionnel, donc encore une fois à la Bela Lugosi. Ou parfois, ils ont un look un peu plus monstrueux, donc genre de chauve-souris géante.
Mmh, mmh.
Par la suite, la fin des années 40 jusqu'au milieu des années 50, c'est une période, une grande période pour le comic book d'horreur. On en compte plus d'une centaine publiées chaque année à tous les mois.
Plus d'une centaine?
Oui, à tous les mois. C'est vraiment une période incroyable. Il y a des comic books d'horreur partout. Parmi les publications les plus populaires, on retrouve entre autres Adventures into the Unknown en 1948. D'ailleurs, à partir de 1950, chaque numéro de Adventures into the Unknown contient au moins une histoire de vampire. Même chose pour les autres comic books d'horreur de la période.
C'était devenu du classique, quoi.
Voilà. Ben, il y a des histoires de zombies, de loups-garous, tout ça.
Oui.
Donc, par exemple, dans Tales from the Crypt, Vault of Horror, Strange Tales, etc. La grande popularité du comic book d'horreur a aussi engendré de nombreuses critiques. Non seulement envers le comic book d'horreur, mais aussi envers le comic book policier, les histoires de crimes. Il y a certains comtés aux États-Unis qui interdisent la vente de comic books parce qu'ils étaient jugés trop violents et trop graphiques à l'époque. Dans les années 50, il y a même eu un comité sénatorial sur la délinquance juvénile et le comic book et son contenu a été mis au banc des accusés. On prétextait que le comic book était une des causes de la délinquance des jeunes à l'époque. Donc, pour éviter que...
Déjà à cette époque, ah oui, OK.
Ouais, ouais, en 1954, c'était une grosse...
Comme aujourd'hui, on les accuse concernant les jeux vidéo, quoi.
Oui, mais c'était encore... Parce qu'il y a vraiment eu des audiences publiques, il y a eu des livres écrits là-dessus, il y a eu un tollé. Et donc, pour éviter qu'il y ait une intervention de l'État dans l'industrie du comic book, il y a un regroupement qui a été formé, le Comic Magazine Association of America. Et en 1954, ils ont décidé d'instaurer un code de conduite pour le comic book, le Comic Code Authority, qui interdisait la présentation de scènes de violence excessive, crimes sanglants et horribles, toutes les scènes d'horreur.
Est-ce que c'était possible dans ce milieu-là, à cette époque?
C'était très possible, c'était une loi.
Ouais.
Et donc,
ça passe ou ça casse.
Voilà. Donc, interdit les morts vivants, les zombies, les vampires. Ils ont tous été bannis du comic book à cette époque-là. Mm-hmm. Parce que pour être publié, un comic book devait avoir l'étampe du Comic Book Authority. L'étampe se situe toujours en haut de la page couverture à partir de cette époque-là.
Oui.
Donc, avant d'être publié, il doit être approuvé par l'organisme.
Ah.
Il y a plusieurs maisons d'édition qui sont contraintes à fermer leurs portes parce qu'ils ne veulent pas changer, ils veulent conserver.
Ils ne veulent pas se plier à la loi.
Exact. Mmh. Et ils ont été forcés de fermer. Il y en a d'autres qui tentent de s'adapter, mais ça fonctionne plus ou moins.
Oui, parce qu'ils ont habitué aux gens à d'autres choses.
Exact. Exact. Mm-hmm. Et donc,
tout d'un coup, il y a une loi qui vient, qui s'impose. Non, on n'a plus le droit de faire ça. Faites ça un peu smooth, quoi. Voilà.
Plus le droit du tout. Et donc, il faut attendre à 1971 pour le retour de l'horreur et des vampires.
Dernièrement,
donc,
là.
Donc, oui, il y a 50 ans.
Oui, il y a 50 ans.
Ça ne nous rajeunit pas. Donc, à partir de 1971, les vampires et les monstres sont de retour dans les pages des comic books.
Oui.
C'est important de préciser, l'horreur a disparu des comic books dans les années 50, mais pas dans les magazines qui deviennent de plus en plus populaires dans les années 60. On pense entre autres à Creepy, Eerie, Weird
Donc,
Tales.
Donc la loi là ne concernait pas les magazines.
Non, parce que le magazine n'est pas publié dans le format comic book. Donc, selon la loi, c'était seulement les comic books publiés en format comic book qui devaient être sous le régime de...
Alors, si j'étais là à l'époque, un producteur, j'allais contenir la loi en passant par les magazines. J'allais m'écrire des magazines.
Et il y en a eu une panoplie à l'époque.
OK, d'accord.
mais l'industrie du comic book, justement, trouve que c'est injuste.
Oui.
Et commence à faire des pressions.
Ça devait concerner tout le monde, quoi.
Ben oui. Mm. Et donc, on fait des pressions pour assouplir le comic code. Et c'est en 1971 que le code est enfin révisé.
Oui.
Le code décourage toujours la présentation de violences graphiques excessives, donc la torture, le sadisme, tout ça. Mais les monstres, les vampires, les loups-garous, Frankenstein, sont de retour dans les comic books. Et Marvel Comics a immédiatement réagi. En 1971, on voit l'apparition dans les pages de The Amazing Spider-Man du personnage de Morbius, The Living Vampire, le vampire vivant. Mm. En 1972, Marvel décide de publier une nouvelle série dédiée au personnage de Dracula qui s'intitule Tomb of Dracula. Pourquoi Dracula? Parce que c'est maintenant possible pour toutes les maisons d'édition d'utiliser le personnage parce que le personnage qui a été créé en 1897 est maintenant du domaine public. Donc, Dracula est présenté de façon
donc,
classique.
Donc, il n'y a pas une question de copie là-bas, quoi.
Non, non, on peut le présenter, mais il est quand même régi par le Comic Code. Le Comic Code exige que le Dracula soit présenté sous forme classique et non pas sous forme monstrueuse.
Parce que quand ça met du temps comme ça, le droit d'auteur disparaît.
Exact.
Ouais.
Et il y a des droits d'auteur, justement, qui s'en viennent. Bon, aujourd'hui, c'est à tous les 96 ans que le droit d'auteur s'estompe.
Wow.
Et donc, ça devient intéressant pour toutes les productions qui ont été faites dans les années 30, que je parle depuis quelques semaines.
Tout le monde peut prendre ça et puis manier à sa manière.
Exact. Mm-hmm. Marvel se lance aussi dans la production de magazines comme Dracula Lives, Vampire Tales, Monster Unleashed. Ensuite, les années 80, la présence du vampire dans les comic books, ça fait un peu plus rare, mais il revient en force dans les années 90, surtout auprès des maisons d'édition indépendantes, principalement à cause du fait qu'elles ne doivent pas se soumettre aux contraintes du comic code. De toute façon, l'influence du comic code s'estompe énormément à partir des années 90, et donc depuis 30 ans, on voit l'apparition de nombreuses séries avec des vampires, Des vampires qui ne sont pas nécessairement méchants. Il y a certains vampires qui sont sympathiques, tentent d'agir en héros, comme par exemple...
Des vampires sympathiques?
Oui! Comme par exemple Cassidy dans la série The Preacher.
OK, j'aimerais bien les croiser.
Et de point de vue visuel, on a une plus grande liberté. On peut être un peu plus graphique, on peut présenter du sang coulé à flot. Oui. On n'est plus obligé de présenter Dracula de la même façon. On peut s'en permettre avec son look, ses pouvoirs, ses motivations. Et je vais terminer là-dessus. Parmi les grands personnages de vampires de tous les temps, on retrouve entre autres Morbius, qui a été l'objet d'un film cette année, un des grands flops de l'année. J'en parlais tantôt, il a apparu dans Amazing Spider-Man numéro 101.
Oui.
C'est un biochimiste qui contracte une
maladie.
Pourquoi
ça a été un flop?
Oh mon Dieu! Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur ce film.
Oh oui.
Je pourrais revenir là-dessus, tiens. Je vais faire une autre chronique là-dessus.
Ils n'ont pas fait assez résonner les caisses, quoi.
Non. Mais quand même, c'est un film, disons, tellement mauvais qu'il en est bon. Certains le qualifient de cette façon-là.
OK. OK.
Donc, Morbius, c'est un biochimiste qui contracte une maladie sanguine rare. Il tente de se guérir en utilisant des échantillons de génétiques de chauves-souris vampires. Mais ça le transforme en vampire vivant qui doit boire du sang pour contrer les effets de sa maladie.
Oui.
Mais il décide de boire le sang des criminels seulement. Mais il doit constamment lutter contre sa soif. Autre personnage important, Blade, qui apparaît pour la première fois dans Tomb of Dracula numéro 10 en 1973. Blade, ben, c'est un chasseur de vampires mi-homme, mi-vampire, qui dédie sa vie à enrayer tous les vampires de la planète.
Il est armé de couteaux partout, là.
Absolument, c'est pourquoi il s'appelle Blade.
Ouais, ouais, ouais.
Et il a été joué par Wesley Snipes dans la trilogie Blade des films à succès des années fin 90, début 2000.
Oui. Wesley Snipes. Ouais, j'aime parce qu'il est devenu maintenant.
Ouais, il y a eu des problèmes avec la justice. Il payait pas ses impôts, le pauvre.
Ouais, c'est des voyous, tout ça.
Allez, non, c'est petit une message. Voilà. On salue Wesley Snipes. Ouais. Et dernière, mais non la moindre, Vampirella, qui a été créée en 1969 par Forrest J. Ackerman et Trina Robbins et qui a fait ses débuts dans le magazine d'horreur en noir et blanc, Vampirella numéro 1. Au départ, elle est l'hôtesse des histoires présentées dans le magazine, puis après, dans le numéro 8, elle vit ses propres aventures. Vampirella est reconnue d'abord et avant tout pour son look, et non ses aventures. Elle qui porte
un look très sexy, là, il faut le dire.
Absolument, qui porte un petit maillot de bain rouge, mais qui est complètement ouvert au milieu pour laisser voir tous ses attributs.
Oui.
On aurait tendance à penser que c'est un homme qui a concocté ce look pour titiller les lecteurs mâles.
C'est vrai,
eh bien,
c'est
non.
Vrai, c'est vrai.
C'est une féministe qui est à l'origine du look, qui s'appelle Trina Robbins.
Une féministe.
Absolument. Elle donne ce look à Vampirella en guise de protestation afin de libérer le corps de la femme, afin de le célébrer.
Alors, féministe.
Voilà. Absolument.
Okay.
Et Vampirella est encore aujourd'hui un personnage iconique très populaire auprès des adeptes de cosplay.
Oui.
Vous savez, ces personnes qui aiment se déguiser en leur personnage préféré. Et ses aventures continuent d'être publiées par la maison d'édition Dynamite Entertainment.
Merci beaucoup à toi, Christian.
Alors, cette semaine, c'était les vampires.
Mais les vampires sympathiques, j'aimerais bien moins rencontrer.
Oui, il y a des vampires sympathiques aujourd'hui, quand même. C'est une bonne chose.
Merci beaucoup. Non, et puis, cette féministe-là qui a donner le look sexy à Vampirella.
Oui.
Alors, elle n'a pas été attaquée par ses amies féministes?
À l'époque, non.
À l'époque, non.
Non, du tout.
Aujourd'hui, ça passe. Ça...
Ben, je ne sais pas. Hein. Okay, je ne sais pas.
Comme c'est une femme qui a fait, bon, ben, ça passe. Quoi. Voilà.
Et d'ailleurs, on a tenté de revamper justement son look dernièrement dans les 5 dernières années en lui donnant une allure beaucoup moins sexy et ça n'a pas fonctionné du tout.
Non, parce que les gens sont habitués à ça.
Voilà.
Non, faut pas.
Exact.
Les gens sont les amateurs, les
voilà.
Amoureux de ce...
Et comme je le disais, il y a énormément de femmes qui aiment se déguiser en Vampirella de toutes les formes, toutes les tailles.
On va en croiser dans les rues de Montréal.
Ben peut-être pas aujourd'hui
déjà.
Parce qu'il fait froid un peu. Quoique, peut-être qu'il y en a des braves, on sait pas.
Merci beaucoup, Christian. Bonne fin de semaine à toi.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Ouais. Thank you. Christian Lacasse avec les vampires sympathiques. Je ne savais pas qu'il y avait des...
Mathieu. Comment qu'on risque d'en croiser des vampires sympathiques?
J'aimerais bien rencontrer dans les rues de Montréal, là, ouais. Durant toute la fin de semaine jusqu'à lundi, parce que c'est Halloween. Tu as vu comment j'étais surpris, là? Vampire sympathique. Pour moi, là, un vampire, c'était vampire. Voilà. Sympathique ou pas, là, c'est un vampire. Il est méchant, là. Il est là pour sucer le sang des autres. Voilà. Et occasion de bénévolat, accès de bénévolat Est de Montréal. Je dis merci à Laura Kane, qui est conseillère en orientation et responsable de l'équipe Volante, qui est responsable de ça d'ailleurs, et sommet en alimentation durable de l'Est de Montréal. Bénévolat ponctuel selon vos disponibilités le jeudi 3 novembre de 14h à 17h30 et ou le vendredi 4 novembre entre 8h et 17h. Mission de l'organisme, faciliter les échanges et le travail en synergie d'exerteurs en alimentation de son territoire, ainsi que de développer et soutenir des projets communs visant à renforcer les systèmes alimentaires locaux, bonifier l'offre en sécurité alimentaire et dans l'Est afin de soutenir l'accès à une alimentation saine et locale. Voilà, offre tenue à la maison de l'arbre du jardin botanique, l'événement a pour objectif de rassembler, de sensibiliser et de faire rayonner et mutualiser des solutions en ce qui concerne l'autonomie alimentaire pour tous dans l'Est de Montréal. Conférence, table de travail axée sur le développement de projets collectifs et réseautage attendent d'ailleurs les participants. Et comme bénévole au sommet, vous pourriez aider à divers mandats, assurer de l'accueil, la logistique, le support à l'organisation, installation et démontage de la salle ou la prise des notes. Prérequis, sens de l'engagement et des responsabilités, être sensibilisé à la réalité de la pauvreté de l'alimentation durable, avoir au moins 23 ans. C'est pas 18 ans, je dis bien 23 ans. Et vérification des antécédents judiciaires. Secteur Hochelaga-Maisonneuve. Voilà. Et puis, il y a le Festival des cultures arabes, selon vos disponibilités, du samedi 29 octobre et au dimanche 13 novembre. Ça, c'est un festival. Alors, voilà. C'est là, l'écart de bénévolat varie en fonction des représentations entre 14h et 21h. Bénévoles recherchés pour participer à un festival mettant en lumière les cultures arabes. Et ce dernier est un événement thématique dédié à la rencontre et au dialogue des cultures arabes et occidentales. Prérequis, personne souriante et respectueuse, avoir au moins 25 ans. Voilà, si vous avez 18 ans, ne vous présentez pas, n'appelez pas là-bas, n'écrivez pas là-bas. Secteur, différentes salles de spectacle à Montréal. Voilà, j'ai encore une minute ? Oui. Bon, brigade de porte-à-porte pour améliorer les conditions de vie des résidents. Ça, c'est bénévolat ponctuel, c'est pas volant. Voilà, bénévolat les 21, 25, 21, 25, 26 et 27 octobre, et les 1er, 2, 3 et 4 novembre, selon vos disponibilités de 10h à 15h, avec 30 minutes de repas et les 15 minutes de rassemblement au début de la et à la fin. Et c'est où de 13h à 17h30, avec une pause de 15 minutes à 15h et le rassemblement en fin de journée. Voilà. Il est possible aussi de faire des soirées du lundi au vendredi et du dimanche, du lundi au vendredi et le dimanche entre 15h et 19h30. Voilà, c'est engagement minimal, un quart de bénévolat demandé. Mission, regroupement des citoyens de groupes indépendants d'institutions d'entreprise. Est-ce qu'il faut en équipe de deux et équipé d'une tablette fournie? Oui, bien sûr. Faire du porte-à-porte pour un court questionnaire dans chacun des 10 blocs d'habitation du domaine choisi en vue de rassembler des informations sociodémographiques sur la population et connaître ses besoins, réalités et attentes. Ouais, tablette fournie. Voilà, ça c'est comme ça. C'est du porte-à-porte, n'oubliez pas. Secteur Saint-Léonard, prérequis, ouverture, confiance en soi, facilité à mettre le projet en contexte et être suffisamment souple pour saisir les opportunités. Oui. Être à l'aise avec des personnes issues de diverses communautés, capacité à être aussi discret et à travailler dans une bonne cadence. Oui, on en a fini. Je vous dis merci. Ouais, merci à notre invité Dominique Prinet qui nous a parlé de son livre « Pilote du bout du monde, souvenir d'un pilote de brousse dans le Grand Nord ». Et merci à Emmanuel Nguyen qui est venu nous parler de son, un résumé de son parcours d'immigrant et de son sport qu'il fait deux fois par semaine, l'escalade. Et merci à Christian Lacasse qui est venu nous parler des vampires sympathiques. Non, Dracula et la présence des vampires dans le comic book. Merci à toi, Mathieu Tessier. Belle fin de semaine.
Bien sûr. Ouais. À toi aussi et à tout le monde.
Merci. Et on se retrouve. Merci à nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous accompagnent depuis le début de l'émission. Prenez soin de vos minutes. Étendez la main aux autres, ceux qui sont dans le besoin. Ne vous fermez pas les yeux quand vous voyez le voisin qui en a besoin. Voilà, qui est dans le besoin. Voilà, tendez-lui la main, c'est tout. Prenez soin de vous. Et puis bon, ben, je vous souhaite une très belle fin de semaine. On se retrouve lundi. On termine en beauté avec... The Devil Musical, Waste My Time, featuring Marshall McKellar. Ciao. Un gros merci aussi à la recherchiste de l'émission, Catherine Bourderon. Voilà. Les recherches de la semaine, c'est vendredi. Voilà. Allez, je vous laisse déguster The Devil Musical et Marshall McKellar, Waste My Time.